c'est vrai que j'étais un ignoble enfant. Comme je faisais beaucoup de bêtises. Je vais vous lire ça. Ça s'appelle Le feu au lac. Je suis allé à l'école primaire mixte La Petite Saison. La Petite Saison, c'était le nom de l'école. Je n'ai eu que de très bons instituteurs, en particulier M. Faustini en CE2, qui était un original et nous fit découvrir mille choses, et Mme Lindsay en CM2, laquelle ne jurait que par le français. Le français, mes enfants, le français. En CE1, j'étais connu pour être... J'étais connu pour être le plus rapide en calcul mental de toute l'histoire de l'école. Et aussi le meilleur en lancer de balle. Le sprint, en revanche, n'a jamais été mon fort. J'aimais beaucoup l'école. J'y raflais les bons points et les images qui donnaient droit à des livres. J'aimais bien les vacances aussi. Nous avions un garde champêtre, M. Renoir, qui organisait des parties de foot le dimanche matin avec nos pères, dont le mien. À la fin de l'année scolaire, le dernier jour, il s'installait au centre de la cour et sonnait le clairon. Quelques notes mélancoliques, presque tristes, qui ricochaient dans le chaud soleil de juin et l'odeur du gazon fraîchement tondu. Tous les élèves de toutes les classes se mettaient aux fenêtres pour assister au récital de M. Renoir, applaudissaient son final et s'enivraient de l'éternité qui se déroulait devant eux. Les grandes vacances, plus de 2 mois, nos esprits n'étaient pas assez larges pour les envisager. À vrai dire, j'ai toujours préféré les petites vacances intermédiaires aux grandes de l'été, qui demeuraient vides sur un plan culturel, pas de dessin animé à la télé. Les autres vacances étaient tous les jours mercredi. Fidèle au poste, conquérant de la lumière, je prenais racine devant le petit écran au cœur de l'action, avec à la main les figurines en plastique des héros qui sauvaient l'univers, qui n'en finissaient plus de le sauver. Le pire de mes ennemis, celui que je redoutais le plus, ce n'était ni les sylphides ou Hidargos, mais le bleu du ciel. Alors entrait en scène la justicière mère, qui rétablissait la loi de son amour armé. « Allez Olivier, ça suffit, va jouer dehors maintenant !» C'était tellement beau. C'était un ordre sans appel. Sans doute signifiait-il la vie. Ça ressemble un peu à cette connerie que tu regardes là. On ne sait jamais sur quel monstre on va tomber. Sauf qu'à la fin, ça se termine toujours mal. Le grand épisode s'achève avec la mort. Alors il faut jouer, et jouer encore, vivre le plus fort que faire se peut. Vis mon fils, et ne remets pas les pieds dans la maison avant ce soir, tu m'as assez cassé les liens. Quand le printemps battait son plein, qu'Avril nous éclaboussait le visage de ses jaillissements d'or, je partais avec mes copains à la conquête des terres en friche. Il y avait au pied de l'immeuble un vaste terrain vierge qui bordait un étang légendaire. On formait une caravelle de Christophe Colomb en herbe, séduit par les larges espaces américains. L'été, on montait parfois, comme Tom Sawyer et Huck, à l'abordage de quelques pêchers privés. On pillait avec avidité leurs boules pourpres et bronzes, dépouillant leurs branches avant de se hisser tout en haut du mât, là où le pirate perçoit à perte de vue toute la liberté qu'il prend à l'immense de l'azur. D'autres fois, on chassait des papillons blancs avec des filets de fortune. On chatouillait des sauterelles vertes. On attrapait, dans des bocaux de confiture vide ou des pots de Nutella, les gros bourdons velus et oranges qui courtisent les pâquerettes. C'était à celui qui en capturait le plus, et j'avais établi mon record personnel à 21 guêpes dans un pot de Nutella. Au prix d'un pouce rougi par la piqûre d'une guêpe bien plus hargneuse que Maya l'abeille. C'était le métier qui rentrait, je récoltais le miel de ma joie, le monde était ma ruche. Un jour, j'ai vraiment cru que ma carrière d'apiculteur tournerait court. Le spectre de la prison me hanta. Non pas à cause des pêches qu'on avait chapardées ou des outils qu'on avait fauchés dans la grange près du noisetier, mais parce que l'immense terrain en friche flambait. J'y avais mis le feu. C'était une après-midi chaude et sèche. L'herbe était jaune. Je craquais des allumettes et les balançais à la volée. Mon pote Laurent et mon frère sautèrent sur chaque départ de feu. Ha ha. pote Laurent et mon frère sautèrent sur chaque départ de feu dont je balançais les allumettes. Je m'en amusais jusqu'à ce qu'un grillage les empêcha d'éteindre un nouveau foyer. Les flammes se propagèrent à une vitesse fulgurante et embrasèrent bientôt tout le champ. Nous avions couru chez moi. Mes grands-parents maternels étaient là, ce devrait être un vendredi. Depuis ma chambre du 8e étage, on voyait le gigantesque brasier et une épaisse fumée grise s'accumuler comme un cumulonimbus. Un camion de pompiers rappliqua dardard, tandis que la vieille, une étrange bonne femme un peu sorcière, qui habitait une maison vétuste non loin de l'étang, jetait des seaux d'eau, frappait les flammes d'un tapis. Elle agita son foulard vert en direction des pompiers qui déployaient leurs lances. Mon grand-père observait calmement l'impressionnant spectacle. « Il y a des grands qui ont foutu le feu, lâchai-je. T'es sûr que c'est pas vous ?» Le lendemain, le champ n'était plus que cendre. Il fumait encore à certains endroits. Il ressemblait à bien des paysages de désolation qu'on voyait dans les dessins animés de ces années-là. La maison de la vieille tenait encore debout, heureusement. Mais je n'ai, pour ma part, jamais avoué mon forfait. Ma mère n'avait qu'à pas être si pressée de toujours me mettre dehors. Il n'y avait quand même pas de feu au lac.